Cela fait 2 années que la 5G est lancée, mais comment cela se passe? Si on pose la question à, disons, un fabricant de smartphones, figurez-vous que c'est exactement la question que je vais poser présentement, en direct via satellite. Depuis Chicago, Michigan, United States of America, nous recevons donc Michael Ilger, créateur de contenu numérique, influenceur tech malgré lui, ambassadeur de marque de smartphone et fidèle auditeur depuis la toute première saison de CPU où il était présent durant les enregistrements en public. CPU, carré et petit utile. Michael, bonjour.
Bonjour Dasrich, comment vas-tu?
Eh ben, écoute, très bien. Je vois que tu es avec un maillot de football américain marqué Stade Toulousain. Ça doit leur faire bizarre quand tu dois leur expliquer les règles et que c'est juridiquement plus pointu que le foot.
Ah oui, tout à fait. Et on va dire surtout au niveau des responsabilités civiles aux États-Unis, c'est quelque chose de
pointilleux. L'enfer du dimanche. Tu es un fidèle auditeur de CPU dès la première saison puisque tu nous as suivis sur nos plateaux en extérieur à Toulouse. Alors, pourquoi es-tu parti à Chicago?
Alors, bonjour, cher auditeur. Et effectivement, j'ai envie de dire, ça me change de passer de l'autre côté du miroir. Fidèle des premières heures, effectivement, en public. Je garde un agréable souvenir et j'ai toujours été d'ailleurs admiratif de l'énergie nécessaire à sa réalisation, mais aussi à toute la logistique derrière. Et effectivement, je suis un auditeur maintenant via le site internet cpu.pm depuis mon départ, comme tu l'as dit. Alors, normalement temporaire pour la ville de Chicago. Et c'était un projet que j'avais en commun avec mon épouse afin de pouvoir profiter de ne pas avoir d'enfants pour pouvoir vivre cette expérience à deux. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire dans ces conditions-là. Plus facile pour moi aussi, un peu moins pour elle, puisque c'est son premier gros déménagement hors métropole, voire même hors de France. Et on avait plusieurs pays à l'étude, pour ma part le Canada, Québec, par rapport à mon parcours professionnel. Elle, la possibilité de se mettre en mutation géographique par rapport à son entreprise. On a pesé les pour, on a pesé les contre, le développement professionnel bien entendu, et on a opté pour la belle ville de Chicago dans le Midwest américain.
Ce qui permet de voir House of Dragons avant tout le monde. Tu es égérie pour Snapdragon, donc un fondeur de puces qu'on retrouve dans les smartphones, modèle main pour Odo, OnePlus et j'oublie sûrement des marques. Ça fait quoi de devoir prendre la pause à chaque fois sur le « Do it again » des Comical Brothers comme dans la pub « One Million » de Paco Rabanne?
Alors, clairement, je ne suis pas aussi beau gosse que les personnes sur ce clip, ou voire aussi doué que les deux frères pour le clip « Do it again », même pour prendre des pauses. Égérie, c'est un bien gros mot. Donc, pour Snapdragon, effectivement, c'est le fondeur Qualcomm qui est derrière cette marque pour le grand public. Donc, ça sera plus insider pour le terme utilisé et ambassadeur, effectivement, pour Oppo, OnePlus, dans ces cas de figure. Mais ça, c'est quelque chose d'assez particulier puisque j'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra pour photographier et filmer. Donc, s'adapter, se mettre en scène, c'est quelque chose d'assez commun, voire même de paradé pour les Américains. Je suis plutôt fidèle du « vivons heureux, vivons cachés ». Maintenant, un avantage certain, c'est effectivement d'avoir accès à ces sociétés, tant américaines que chinoises, d'un point de vue marketing et business, et de mieux comprendre comment ça fonctionne ici sur le marché local, de voir les attentes utilisateurs qui sont complètement différentes du marché européen, et toutes les stratégies de communication qui sont basées, donc, comme si tu l'as dit, sur des influenceurs, sur des créateurs de contenu, ou même on va dire, d'autres grosses sociétés et partenaires, sites web, et ainsi de suite.
On a complètement loupé dans l'émission CPU le train pour notre série sur la 5G, donc on va faire comme si, hein, voilà. 2 ans et demi après le lancement, est-ce que la 5G cartonne aux États-Unis?
Alors, t'inquiète pas, je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir loupé. Il y a beaucoup d'opérateurs aussi dans le monde ou en Europe qui ont loupé le train. Alors effectivement, depuis pour les États-Unis, c'est depuis 2019, surtout vers Chicago, voire même un peu avant, puisqu'il y a eu beaucoup de publicité faite sur ce sujet-là. Alors, est-ce qu'elle cartonne? Ça, c'est une bonne question.
J'ai que des bonnes questions.
Ouais, c'est pour ça que j'apprécie tes émissions et que je les écoute. J'essaie d'être le plus fidèle chaque semaine, c'est assez compliqué. On va dire que les usagers ici ne sont pas fans de la vitesse en elle-même ou de la technologie, ils sont plus fans des usages qu'elle porte. Donc, c'est complètement transparent pour eux. Et puis, il y a tellement de technologies au niveau de la 5G, ils ne vont pas rentrer dedans, à savoir si c'est des sub-6 GHz, avec les bandes C maintenant, l'ultra-wide, les ondes millimétriques, ce genre de choses, sachant aussi que les opérateurs, ils vont chacun avec leur sauce. Donc, tu es un peu lié quand tu es avec Verizon, avec leur techno, et si tu es avec T-Mobile, AT&T, d'autres technologies. Donc, ça va être surtout sur la couverture. Si tu es dans une grande ville, bien entendu, la couverture 5G, tu vas l'avoir. Dès que tu sors du centre-ville, tu vas repasser en 4G. Et j'ai envie de dire même encore, certaines fois, tu vas avoir des personnes qui vont plutôt dire « Waouh, j'ai du réseau. Waouh, j'ai pas perdu ma connexion Internet. Je capte mieux. » Et parce qu'ils seront peut-être sous la 5G qui permet donc de supporter plus d'utilisateurs à la fois, plutôt que de dire « Oh, c'est plus rapide, j'ai plus de débit, je peux regarder mon film en 1080p, genre de choses. » Vu qu'aux États-Unis, tu n'as pas de neutralité du net, à proprement dit, plus tu payes, plus tu as des options, des services qui sont ouverts. Et généralement, c'est un gros problème parce que, comme tu le sais, il y a le credit score aux États-Unis. Donc, les combos, meilleur service 5G, meilleur téléphone 5G, c'est vraiment ouvert qu'aux personnes qui y ont accès. Donc, tu as un schisme entre ceux qui sont vraiment dans la possibilité d'avoir les dernières technologies 5G et puis tu vas avoir tous ceux qui vont être encore en 3G, 4G avec des vieux téléphones ou avec des forfaits prépayés ou sur des opérateurs mobiles. Et vraiment, eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment d'avoir de la connexion, de la connectivité, de la data sur un téléphone. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la plupart utilisent les Wi-Fi publics, que je ne conseille pas forcément dans les fameux Starbucks, McDo et ainsi de suite, justement pour ces problèmes de couverture, comme je te citais juste avant.
Qu'est-ce qui a été surestimé finalement dans la 5G ?
J'ai envie de dire le taux d'adoption qui est beaucoup plus lent que ce qui a été prévu, puisque c'est vraiment lié sur une raison pécuniaire au niveau des utilisateurs et ensuite par rapport au déploiement des infrastructures. Chaque État aux États-Unis, par exemple, vend ses propres licences. Dans le cas de Chicago, on a eu la bande de 600 MHz.
Ah, c'est pas la FCC qui décide, c'est pas l'organisme fédéral, c'est vraiment chaque État qui gère ça indépendamment.
La FCC va avaliser, on va dire, des technologies qui vont être employées, mais ils vont préconiser des dates de déploiement pour que le territoire soit couvert à 30% ou le taux de population, parce que généralement c'est la population couverte et pas forcément le territoire géographique. Et après, ce sont les États qui négocient ça avec les opérateurs, on va dire. Et tu peux aller même jusqu'au millefeuille administratif ou ça peut aller jusqu'aux grandes villes elles-mêmes qui vont essayer de vendre leur bande de fréquence libre, bien entendu, aux opérateurs. Et donc, le cas de T-Mobile pour la 600 MHz à Chicago a été acté vers fin 2019 et le déploiement a été seulement qu'à partir de 2020. C'est encore une fois les grandes agglomérations, les fers de lance pour la technologie. Et après, tu as tout le reste du territoire qui est obligé de subir. Et on le voit avec l'arrêt progressif de la 3G où beaucoup de personnes n'ont plus accès aux services de téléphonie mobile, Internet, et sont obligés de renouveler leur téléphone. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que, comme je disais plus tôt, ça a un coût et l'infrastructure idem. Un opérateur, est-ce qu'il va vouloir installer des antennes 5G en sachant que la démographie fait que ces personnes-là n'ont pas les moyens d'acheter un téléphone 5G et un forfait 5G, ou est-ce qu'ils vont l'installer et leur laisser l'option et donc créer un nouveau marché? Donc, si tu veux, c'est un peu au cas par cas et ça crée des disparités à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui a été sous-estimé?
Sous-estimé, j'ai envie de dire l'appétence des Américains à consommer du contenu, mais vraiment de toutes sortes. On va dire que je vais prendre un exemple très bête, ils sont fans de tout événement sportif aux États-Unis et fans de ces fameuses statistiques en temps réel. On retrouve maintenant de la réalité augmentée au sein même des matchs dans les stades et des stades qui sont à des capacités moyennes pour le football américain entre 50 et 70 000 et quasiment plein à chaque fois à craquer. C'est cette appétence-là qui est très consommatrice de données, qui est consommatrice, on va dire, d'informations en temps réel, donc des temps de latence extrêmement faibles. Et de là, il faut développer la technologie, il faut développer l'infrastructure, il faut aussi développer les usages et les services à ce niveau-là. Et une petite tendance qu'on est en train de voir, qui est assez intéressante, c'est, tu parlais de Snapdragon juste avant, donc une marque de Qualcomm. Et ce nom-là, on est en train de le retrouver sur des sponsors, des partenariats avec des stades, comme le stade de San Diego, ou voire même Manchester United en Europe maintenant, qui ont signé avec eux. Et je pense que sur ces tests-là sont des tests à grande échelle où ils ont passé, on va dire, la seconde à ce niveau-là, et ils vont essayer de pousser un peu plus leur technologie, leur architecture, leur déploiement, pour justement pousser ces usages-là auprès du consommateur. Et la pandémie a eu un double effet, un effet d'arrêt, puisque bien entendu les personnes ne pouvaient pas venir travailler sur le terrain, donc le déploiement a été arrêté, mais aussi justement une multiplication de personnes qui avaient besoin d'Internet, puisque tout ce qui était service ont eu le droit de travailler à domicile, chez eux, ou les personnes ont déménagé d'un état à un autre pour se rapprocher de leur famille, où il y avait peut-être des malades, des problèmes de santé, ce genre de choses, et ont touché de plein pied le fait que dans les grandes agglomérations, ils avaient accès à une technologie et c'était devenu usuel pour eux, et puis se retrouver perdus dans une petite ville d'un petit comté à 400 km de toute préfecture ou autre, se retrouver avec de la 3G ou de la 4G, et donc avec des services dégradés, des pertes de connexion, ce genre de choses.
Et si on veut ça, avoir la fibre optique à la maison, ça peut coûter jusqu'à 4 000 euros en travaux pour la faire tirer.
Oui, et puis il y en a même qui vont dire on va pas venir la tirer tout simplement. Je vais te prendre un exemple. J'étais au centre-ville de Chicago, j'avais droit à la fibre de Google avec des données synchrones.
Il faut expliquer que Google FI est un opérateur FAI fixe aux États-Unis.
Et qui licence aussi son réseau à d'autres FAI d'ailleurs, et il en a racheté un pour promouvoir justement son déploiement. Et j'ai déménagé, et là je n'ai plus du tout de fibre, je suis repassé sur du câble, vieille technologie à l'américaine, et AT&T est en train de déployer de la fibre, mais voilà, le quartier où je vis n'est pas éligible à ce genre de technologie. Donc, encore une fois, tu peux avoir d'une rue à une autre trois différentes technologies à ce niveau-là, comme tu l'as dit, qui coûtent excessivement cher. Et on a de plus en plus de FAI donc, qui essaient de pousser la 5G en connexion Internet à domicile, idem, comme se fait en France pour les zones blanches, mais directement même dans les grandes villes, parce que, voilà, comme tu peux imaginer, tirer des câblages sur des immeubles de 30 étages assez vieillissants avec 15-30 appartements par étage, à la fin, la facture, elle est faramineuse. Donc, tous les moyens sont bons pour la réduire et pour proposer des débits équivalents en haut débit.
Tu parlais des stades tout à l'heure, justement, parce qu'il y a eu des tests de déploiement dès les tout débuts d'ailleurs de la 5G sur ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Et en fait, d'après ce que j'avais lu, Verizon avait été extrêmement déçu finalement de la portée effective de ces ondes. Ça va pas très loin. Et même pour couvrir un stade complet, uniquement la partie, je vais dire, ouverte, les tribunes. En fait, ben non, en bas des tribunes, on ne capte même plus les répétiteurs qui sont au-dessus, à 10 mètres, au-dessus. Donc apparemment, ça ne marche pas si bien que ça.
Alors oui, alors est-ce que est-ce que la définition ça ne marche pas aussi bien, ou est-ce que c'est inhérent à la technologie? Je pencherais pour le côté inhérent à la technologie des ondes millimétriques, qui sont disponibles sur différentes bandes de fréquences et même sur des larges fréquences au-dessus de 25 GHz, ce genre de choses. Verizon avait fait des tests effectivement à Chicago. Je me rappelle d'un vieux modèle Motorola qui avait son fameux Moto Mode 5G pour les ondes millimétriques. On va dire que à ce niveau-là, c'est le maillage qui est le plus important. Et même, ils avaient pensé à utiliser les téléphones comme relais.
Donc, faire des réseaux en mèche, quoi.
Tout à fait.
Mais c'est du communisme!
C'est des communistes. Non, tu mets juste, tu partages et tu mets en adéquation les ressources que tu as et comme tu peux, et surtout pour pas cher. C'est aussi ça le nerf de la guerre. Et les ondes millimétriques, je vais te prendre un exemple. Dans le quartier où j'étais, au centre-ville de Chicago, à chaque feu rouge, il y avait un boîtier d'ondes millimétriques. Et tu vas dans une boutique Apple, ou tu vas dans une boutique Google, ou T-Mobile, tu vas avoir à l'intérieur du magasin des antennes 5G millimétriques pour fournir le meilleur service pour que les clients, lorsqu'ils testent leur téléphone, soient subjugués par la 5G. Et oui, quand tu vas dehors, tu mets ton téléphone dans la poche, tu n'as plus de 5G millimétrique, tu es derrière un parapluie, tu n'as plus de 5G millimétrique. Ça demande un investissement, ça demande un maillage, ça demande du mesh, ça demande de réfléchir sur ce sujet-là. Pour les stades, c'est quelque chose qui est déjà pris en compte. Donc, les nouveaux stades qui sont en train d'être construits, ont des partenariats avec des fournisseurs de composants 5G, que ce soit Qualcomm ou MediaTek, pour ne pas les citer. C'est couvert, mais de A à Z. Tu vas avoir des antennes dans les toilettes, des antennes pour quand tu commandes à manger, des antennes à chaque rangée, des antennes sur le terrain. C'est aussi quelque chose qui est aussi important. Tu parlais de réseau mesh, c'est ce qu'on a dans les cités, dans les villes connectées, donc les fameuses smart cities et tout ce qui est véhicule autonome avec les assistances à la conduite, où tu vas avoir ces véhicules-là qui vont aussi servir de mesh pour permettre de relier le réseau 5G et qui vont se baser sur de la connectivité 5G pour fournir tous les services d'autonomie, de communication avec la ville, les feux rouges, les embouteillages, ce genre de choses. Et Snapdragon avait justement l'année dernière lancé son projet Snapdragon Digital Chassis en anglais, donc de châssis numérique pour à destination des constructeurs automobiles. Aux États-Unis, ça a été quasiment une révolution, puisque comme tu le sais, avec Telsa, Lucid et autres compagnies, c'est la mode. Et les médias européens ont été complètement déconnectés à ce niveau-là, ne voyant pas les raisons pourquoi c'était poussé, pourquoi ils allaient sur ce sujet-là et pourquoi ils allaient intégrer autant de technologies de connectivité au sein des véhicules, en tout cas de la plateforme qu'ils allaient fournir. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est les ondes millimétriques, c'est le réseau, l'architecture, les disparités entre les grandes villes et ces fameuses autoroutes américaines sur des milliers de kilomètres où tu n'as pas un réseau, tu n'as pas de réseau certaines fois. Donc oui, c'est des gros sujets, c'est des gros sujets. Je pense que c'est un côté qui a été sous-estimé, la couverture réseau et la capacité des gens à avoir accès et se connecter dessus.
Alors, qu'est-ce qui a mis la plus grosse claque finalement? Le Covid, la rupture de composants ou plus prosaïquement, le surplus de vitesse facturé au prix du caviar par les opérateurs américains?
Un peu de tout.
Parce
Un
que je
peu
te
de tout,
rassure,
mais.
hein, en France, il y a un trublion qui a mis tout le monde d'accord. Hein.
J'adore les forfaits téléphoniques qui disent 5G est limité, et puis au bout de 10 gigas, 12 gigas, je te disais, il n'y a pas de neutralité du net. Donc déjà, tu te retrouves à te streamer en 480p par défaut, à part si tu payes une option pour avoir de la HD. Tu vas être. Oui, non, mais rigole pas, c'est juste quelque chose d'assez fabuleux. Donc, mon application de streaming, par défaut, elle est passée en 480p. Et quand je me mets sur un Wi-Fi, je suis obligé de la changer manuellement en HD quand je reviens à la maison, parce qu'autrement, je reste sur une qualité dégradée. Mais c'est pareil, tu vas avoir une vitesse dégradée dès que tu dépasses une certaine enveloppe de données consommées. Tu peux même être déconnecté du réseau Internet pour prioriser ceux qui ont des forfaits 24 mois, style qu'on a chez Orange et SFR avec abonnement top of the pop dans l'idée. Et la pandémie, bah oui, la pandémie, parce que personne ne pouvait travailler comme il se doit sur le terrain, avec les mesures de sécurité sanitaire. Certains États, on a été confinés. Avec ordre par la garde nationale de rester à domicile, sinon c'était punition, j'ai envie de dire. La pénurie de composants, oui, ça clairement. Je vais même te raconter une petite anecdote sur le sujet. C'était l'année dernière lors d'un sommet tech à Hawaï où tu avais le secrétaire d'État américain qui avait appelé le CEO d'une très grande boîte américaine et dans la journée il avait appelé toutes les sociétés américaines en posant simplement la question, mais que se passe-t-il avec les composants, hein? Avec les composants, je lis de partout que les entreprises américaines ne peuvent plus sortir de véhicules des usines, ne peuvent plus sortir de produits de grande consommation, de lave-linge, sèche-linge, genre de choses. Que se passe-t-il? Et c'est là où tu vois la déconnexion et certains pays dépendants aussi de l'importation. Vu les contextes qu'on a actuels, je ne vais pas revenir sur le sujet, la pandémie, la géopolitique actuelle, oui, ça met un coup d'arrêt sur tout. Et je pense que ça va continuer un petit moment. Mais chaque État va prendre les mesures nécessaires. Les États-Unis ont fait passer une loi de financement de 42 milliards de dollars pour rapatrier toutes les usines de semi-conducteurs sur le territoire américain. Intel, TSMC, Qualcomm et ainsi de suite, Texas Instruments vont s'engouffrer dans la brèche, on va dire. Donc oui, je pense que maintenant qu'on a géré la pandémie, Ça va être la fameuse logistique, la supply chain, comme ils disent ici, qui sera le nouveau nerf de la guerre au niveau des technologies.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Michael Eager, influenceur tech et ambassadeur de marque de smartphones chinois aux États-Unis. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la guerre économique entre les États-Unis et la Chine a impacté les marques que tu représentes ?
Chinoise, effectivement, mais aussi américaine. Je reste créateur de contenu pour quelques marques sur le territoire nord-américain et américaine. Peut-être le côté franchouillard ou l'accent qui fait toute la différence, ou peut-être la représentation de la mode à la française. Écoute, je prends, hein, je vais pas dire non. Alors oui, tu disais la guerre économique entre les USA et la Chine. Oui, ça a un impact. En revanche, c'est assez intéressant de voir leur capacité à faire la différence entre une politique fédérale pour le côté américain, donc du gouvernement, et les entreprises privées, et la même chose du côté justement des entreprises chinoises. On parlait de la problématique de livraison de composants juste avant. Je pense que dans un point de vue stratégique, on peut se douter que les intérêts de ces entreprises-là est de continuer d'être présents et représentés via leurs partenaires locaux sur ces marchés-là, que ce soit les entreprises chinoises sur les marchés nord-américains, voire même ce qu'on appelle l'ATAM, donc Amérique latine, et les entreprises américaines pour tout ce qui est présent dans les pays asiatiques ou pan-Asie, donc en incluant l'Inde, la Chine. Tout type, hein, smartphone, objets connectés, Internet des objets, maintenant le secteur automobile et les secteurs des voitures électriques. Et encore, la liste, elle est bien, bien plus longue. Donc voilà, ces marchés-là à l'international, c'est super important pour eux. Donc on va dire qu'ils vont jouer plus le côté diplomate, essayant de s'adapter aux cultures et aux us de chaque marché où ils veulent présent, où ils veulent vendre. Par rapport aux marques que je représente, on va dire surtout que ça va être plutôt budget, il faut pas se leurrer. Ils vont changer leur politique commerciale, ils vont essayer de se baser plus sur la communauté d'utilisateurs déjà présente. Ils vont pas se lancer dans des campagnes de publicité avec des milliers d'essais, ils vont plutôt faire des événements en local, essayer de créer toute cette storytelling autour de la marque pour que les personnes arrivent à mieux la connaître et à mieux la comprendre, mais tout en étant, il faut bien le dire, lisse, puisque pour les entreprises chinoises, tout ce qui est conflit, c'est pas forcément quelque chose qui est intégré à leur culture. Alors qu'on adore débattre de notre côté, des fois on gagne même plus de temps à le faire au lieu de revenir sur un sujet 2 mois ou 3 mois plus tard. Ça reste des entreprises privées, donc des entreprises privées qui ont pour but premier de vendre, il faut pas se leurrer. On va dire qu'ils ont juste changé leur manière d'attaquer le marché local. Et un autre problème qu'on peut voir maintenant, et moi ce qui me déprime un peu, c'est le manque d'évolution technologique qu'on a sur les nouveaux produits. Je pense que tu vas peut-être être d'accord, c'est qu'à chaque fois que tu regardes un nouveau produit qui est annoncé chaque année, 80%, 90% des cas, ça reste un produit repackagé ou embarquant des technologies assez vieillissantes, que ce soit pour les capteurs photo, ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que justement,
oui, parce qu'ils ne font plus la pub maintenant sur, peut-être sur le changement de réseau, mais je veux dire, c'est plus la pub maintenant sur la vitesse, sur la capacité embarquée de mémoire de masse, la limite seulement sur l'appareil photo, quoi, sur les capacités du capteur, et encore.
Et encore, sur la partie photo, c'est surtout parce qu'ils communiquent sur cette fameuse photographie assistée par intelligence artificielle, par ces fameux ISP, donc ces processeurs dédiés pour le traitement photo numérique, genre de choses. Et c'est un avantage parce que j'ai envie de dire, depuis très longtemps, on a oublié que les personnes, lorsqu'elles achetaient un produit, c'était par rapport à ses fonctionnalités et par rapport à ses besoins. Et donc, ça s'était retourné parce qu'il fallait vendre. Donc, on disait, vous utilisez si bien. Tu as le téléphone le plus rapide, le meilleur pour les derniers jeux, plus grosse batterie, plus grosse mémoire embarquée. Et puis, au final, 90% des usagers utilisent 30%, 40% des ressources du téléphone et encore. Et là, maintenant, on peut voir effectivement une fragmentation par rapport aux usages avec des téléphones dédiés à la photographie, des téléphones dédiés aux jeux, des téléphones dédiés, on va dire, de la bureautique ou média pour Instagram, je dois dire toutes les marques, donc Snapchat, Facebook et ainsi de suite. Donc ça a du bien, c'est bien, ça a du bon, c'est parfait. Mais les marques se cherchent encore sur ce sujet-là parce que tu auras toujours une fan base qui va dire je veux le meilleur, je suis prêt à payer. Et ils sont obligés aussi de composer avec le prix parce que le prix, à cause des problèmes d'approvisionnement, où tu peux attendre maintenant 52 semaines pour tel composant au lieu de 3 ou 4 semaines avant d'être livré. Il y a des j'ai une liste de composants là où tu as les nouveaux délais d'attente en chaîne de fabrication, ça fait un peu peur. Donc voilà, donc du coup tu as un prix que tu vas devoir impacter aussi ces problèmes là sur le prix et se retrouver avec des téléphones qui normalement devraient coûter pour du haut de gamme 700 800 euros, les voir arriver sur le marché à 1000 1100 1200. Surtout avec le contexte actuel, l'inflation, le pouvoir d'achat, ce genre de choses, c'est pas quelque chose de bien et c'est quelque chose qu'on voit aussi ici aux États-Unis, comme je disais plus tôt. Il y a une disparité de moyens par rapport à la population, par rapport à leur credit score, par rapport au forfait, ce genre de choses qui restent extrêmement chères. Et ils fonctionnent toujours en offre couplée abonnement smartphone. Hein, donc tu finances finalement ton smartphone chaque mois avec ton fournisseur d'accès qui est ta banque. Donc oui, on se retrouve avec une communication différente et peut-être une volonté maintenant de se focaliser un peu plus sur les usages de tout à chacun et essayer peut-être de recentrer une gamme. Après, il y a des marques qui décident d'inonder le marché avec 150 000 références, avec juste une petite addition ou une soustraction et qui renomment ça T Pro, T Max, C, S et je ne sais quoi. Donc ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, écoute, ça reste du marché, hein, ça reste un marché. Hein, voilà.
Google annonce pour Android 13 un passage à l'architecture purement 64 bits, transition qui a été faite par Apple d'ailleurs depuis 2017. Est-ce que les modèles existants sont déjà tous prêts pour le 64 bits ?
Réponse courte, oui. Il n'y a pas de raison qui ne soit pas compatible. Maintenant, la réponse longue, c'est bien beau d'avoir du matériel 64 si t'as pas le logiciel qui va derrière et qui le supporte. Donc, on se retrouve encore une fois avec le gros problème d'Android et sa fragmentation, et voire même des développeurs tiers.
Voire même des mises à jour, puisque Apple, là, donc, ils ont annoncé le déphasage, l'arrêt des supports de sécurité sur des iPhones qui ont 7 ans. J'en ai un qui a 7 ans, qui avait encore des mises à jour. À quand les constructeurs qui proposent des mises à jour aussi longues dans le monde Android ?
C'est toujours une bonne question. J'ai envie de dire dans la vision Android pure Google, normalement, on va dire les mises à jour devraient être sur du plus long terme et sans autant de prise de tête par rapport au client final. Après, malheureusement, on parlait d'architecture 64 bits depuis l'année dernière, donc milieu d'année dernière, normalement toute nouvelle application poussée sur le store est sur une architecture 64 bits. Le système maintenant est actuellement en 64 bits. Les nouvelles architectures X2, A510 et autres de ARM ont déjà enlevé pour certains le support de l'architecture 32. Donc ça va forcer tout le monde théoriquement à pousser du 100% 64 sur Android. Maintenant, il faut savoir que 80% du marché, ce sont des entreprises chinoises, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir, qui ont pour 50% de leurs revenus le marché chinois. Et là-bas, il n'y a pas Google. Il n'y a donc les applications qu'elles poussent, ce sont des applications disponibles sur leur propre store. Donc, tu vas avoir un store Xiaomi, tu vas avoir un store Vivo, un store Oppo, et ainsi de suite. Et il n'y a aucune volonté, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année dernière, de pousser les développeurs de ces plateformes-là sur du 64 bits. Donc, tout leur logiciel, leur soft, est compatible 32-64. Et j'ai même envie de dire, malheureusement, je connais des marques qui refusent ou qui n'ont pas envie de passer leur application système 32 en 64, créant des gros problèmes ici et là qu'on va malheureusement avoir sur des modèles européens ou des modèles globaux. Et tant que eux, on va dire, ne feront pas ce switch vers du full 64, pardon pour l'anglicisme, on va avoir ce problème-là de vision de Google avec les projets Treble, le projet Manline, pousser tout ce qui est Apex pour les applications et ainsi de suite, qui ne va pas pouvoir voir le jour comme il devrait. Donc, on a des marques maintenant qui communiquent en disant, vous allez avoir 4 ans de mise à jour. Oui, c'est quoi? C'est 4 ans de mise à jour de sécurité, grand classique, comme tu dis, et tu vas avoir une ou deux mises à jour majeures Android, Android plus 1. Mais pareil, ça va dépendre aussi de la plateforme matérielle, ça, puisqu'on c'est ce qu'on appelle les ODM, les fameuses plateformes de développement liées à tel ou tel fournisseur de composants. Et même eux, des fois, pour des problèmes de coûts ou de ressources, ne mettent pas à jour leur librairie, ne mettent pas à jour leur API, ne mettent pas à jour leur driver. Et tu te retrouves donc bec dans l'eau avec sans la possibilité, normalement, matériellement parlant, à 99% compatible avec une mise à jour Android, mais un capteur d'empreinte qui ne va pas fonctionner, un problème avec un capteur photo ou ce genre de choses, donc fragmentation Android. Donc c'est un avantage qu'Apple, comme tu as cité, a par rapport à Google, ça c'est clair et net. C'est quelque chose depuis 2019, pour être précis, Google essaye vraiment, vraiment avec ses partenaires de pousser au maximum.
Avec le programme Android One.
Ouais, alors non, on va l'oublier celui-là, je suis désolé, mais mort-né, si tu veux, je donne mon avis personnel. Mais c'est vraiment très bon, Mainline, et toutes les applications sous format Apex et Pony Express. Donc, bon, écoute, on verra dans le futur. Je pense qu'on a encore 2 ans ou 3 ans à serrer les dents et à pleurer dans son coin, genre de choses. Après, j'ai envie de dire, l'avantage Android, c'est. Débloquer son bootloader, son secteur d'amorçage, pousser un firmware custom, et puis voilà. Et encore, ça sur ça aussi, certaines lois européennes vont avoir tendance à changer la donne. Donc, écoute.
Michael, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette interview avec le décalage horaire. Donc, puisque tu es à Chicago,
7 heures pour moi, ouais. 7 heures
7 heures.
Midway, Midwest,
Voilà.
toujours une heure de
Et
plus.
j'ai quelque chose pour toi qui va te rappeler des
Oh,
souvenirs.
dis-moi tout. Oh là 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 là.
Voilà.
Hey, tu veux pas faire un bar top ici avec un petit Raspberry Pi dedans
Avec un
et tu
vieux
mets ça sur
Minitel
ton
1B,
comptoir?
ouais. Ouais, on
Ça
devrait peut-être.
peut être sympa,
Ça
j'apprécie. Non,
peut être.
vraiment. Mais tu parles de ça, mais j'ai encore utilisé un fax il y a pas très longtemps la semaine dernière pour envoyer des documents à une entreprise. Bon, bref, passons. C'est la
G3 is
magie
not
des
dead.
États-Unis.
Le groupe 3 n'est pas mort. Allez. Ah, ciao, merci.
Bah écoute, merci encore.